Souhaïla Hachmi, bonjour.
Bonjour.
Vous recevez ce matin dans l'invité de la rédaction M. Sidi Ahmed Farouhi, ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Souhaïla Hachmi, c'est à vous.
Monsieur Sidi Ahmed Farouhi, bonjour.
Bonjour.
Alors, nouvelle loi sur la pêche et l'aquaculture, elle a été adoptée en Conseil des ministres le dernier. Alors, au-delà de son aspect organisationnel, le principe, c'est d'introduire de nouvelles facilitations en matière d'investissement dans le secteur, satisfaire la demande locale. Comment, concrètement, est-ce que cela signifie que cette loi va booster davantage le secteur à l'avenir ?
Oui, c'est important d'avoir une loi qui, en même temps, est un cadre général d'action pour le secteur et, bien sûr, produit des éléments d'ancrage, notamment dans un certain nombre de domaines qui sont projetés dans la modernisation du secteur, que ce soit dans les activités de la pêche ou de l'aquaculture. Je voulais juste rappeler que c'est une loi, c'est un projet de modificatif d'une loi qui existe depuis déjà 2001, mais depuis deux ans, tout ce que nous avons constaté sur le terrain, les différentes discussions, les concertations qu'on a eues avec les professionnels, ont montré qu'il y avait un certain nombre d'éléments importants à consolider autour de l'organisation des professionnels, autour du développement de l'aquaculture, autour des plans de gestion des pêcheries. Tous ces nouveaux instruments sont des instruments que la loi, bien sûr, vient renforcer et consolider.
Mais c'est une feuille de route pour les 5 prochaines années. Mais exactement, qu'est-ce qu'on doit retenir essentiellement de cette loi ? C'est qu'elle va booster un peu le secteur de la pêche, mais est-ce que ça va aussi encourager davantage l'investissement dans le secteur ?
Oui, certainement, parce que pour l'investissement, surtout l'investissement privé, il faut de la visibilité. Il faut de la lisibilité pour les acteurs pour qu'ils se mettent dans une dynamique d'investissement. Donc cette loi est une projection de ce que nous pensons être tous ensemble la bonne orientation du secteur et de ses activités pour les 10 prochaines années. Et elle introduit bien sûr un certain nombre de nouveaux principes qui sont y compris adoptés au niveau international et régional, comme la question de la pêche responsable, la question de l'aquaculture durable. Il y a même des instruments juridiques internationaux aujourd'hui qui fondent ces nouveaux principes. Et ces éléments de visibilité, c'est eux qui permettent après de pouvoir avoir un cadre de développement clair et lisible pour tout le monde.
Alors, c'est des investissements neufs ou améliorer l'existant, M. Farouhi, puisque déjà, votre déclaration, pour vous, vous considérez que la pêche, c'est un métier et surtout un savoir-faire qui doit s'adapter aux nouvelles techniques et technologies.
Il faut faire évoluer, il faut pas faire table rase de ce qui existe. Nous avons beaucoup de choses qui ont été accumulées au cours de ces 10 dernières années. Et tout ce travail-là, il faut pouvoir le projeter dans l'avenir, bien sûr, tout en prenant en compte de nouveaux défis, de nouvelles problématiques. Et l'élément, l'accélérateur de croissance qui est aujourd'hui l'intégration des technologies et des nouveaux modes d'organisation autour de, que ça soit de la pêche ou de l'aquaculture, c'est un axe important de développement.
Mais vous avez recensé le potentiel existant actuellement pour
oui,
démarrer,
en fait,
pour
oui,
refaire,
en fait,
pour
tout le travail que nous avons fait depuis déjà au cours du premier semestre de cette année a été consolidé dans le cadre de la préparation du prochain programme quinquennal à partir du 1er janvier 2014. Pendant 6 mois, nous avons sur le terrain, y compris avec les professionnels, eu les concertations pour pouvoir avoir un programme opérationnel pour les 5 prochaines années. Nous sommes en train de finaliser dans cette deuxième phase avec des tables rondes au niveau local où nous faisons à la fois l'évaluation mais aussi la programmation en futur autour des activités qui pourraient être développées, qui pourraient être accompagnées.
Mais vous allez procéder par étapes. Comment vous allez faire, Monsieur Farouhi ? Encourager d'abord, dans un premier temps, l'investissement dans le domaine de l'aquaculture, qui doit être un complément à la pêche ordinaire ?
C'est clair que l'aquaculture est un des axes pour les 5 prochaines années lourd et important à développer, notamment...
C'est
dans...
débureaucratiser, les financements vont être plus accessibles, Monsieur Farouhi ?
Il y a déjà des mesures qui sont prises parce que nous préparons en même temps à la fois l'orientation, mais on essaie à la fois d'anticiper sur des mesures qui sont des mesures de facilitation et des mesures de simplification. Donc, à titre d'exemple, nous avons décentralisé les évaluations de projets, les concessions autour de l'aquaculture, ce qui permet d'avoir une proximité plus proche du terrain. Nous sommes en train de finaliser pratiquement, je pense que ça ne dépassera pas 2 à 3 semaines, le nouveau dispositif d'accompagnement pour la bonification des taux d'intérêt pour les crédits d'investissement et les crédits d'exploitation. De l'autre côté,
une
nous
bonification
avons
à quel taux?
À taux zéro. Donc les aquaculteurs pourront être accompagnés sur ce plan-là.
Combien de concessions pourraient être mises à la disposition aujourd'hui des futurs prétendants pour l'aquaculture?
Nous avons affiné le potentiel aujourd'hui existant sur l'ensemble de la côte. Nous avons une possibilité de développer des projets aquacoles, marins hein, en tout cas pour cette partie, autour pour plus de 100 sites. Aujourd'hui favorable.
100 sites recensés.
100 sites recensés qui sont dans le pipe. Et puis nous avons tout de suite lancé une étude pour affiner bien sûr ces sites et pouvoir aussi prendre en charge, y compris les investissements à terre. Donc tout ce travail se fait en convergence. C'est pour ça que je vous dis que le cadre réglementaire est important parce qu'il donne de la visibilité. Mais en même temps, il faut avoir des mesures concrètes et un accompagnement aussi en termes de formation et d'ingénierie. C'est vraiment très important de réussir les projets sur le plan de la conception.
Mais les jeunes de l'Ansège vont être favorisés également. Ils pourront accéder à l'aquaculture à l'avenir, Monsieur Ferrou?
Oui, ils pourront accéder. C'est déjà, ça veut dire, un mécanisme qui est mis en place, notamment pour un certain nombre d'activités qui sont en rapport avec les niveaux de soutien et de financement qui existent au niveau de, notamment, les dispositifs de l'ANSEJ, les dispositifs aussi de la CNAC. Donc tout ce processus a été mené au cours des dernières semaines pour être prêt au plus tard d'ici la fin de ce trimestre, pour être prêt à lancer toute la machine.
Et pour les projections, par exemple, en matière de création d'emplois, est-ce que vous avez fait, par exemple, une étude de simulation qui vous permet d'avoir des indicateurs concrets sur le nombre d'emplois qui seront créés?
Oui, 20 000.
20 000,
on a le potentiel de
20 000
dans l'aquaculture.
20 000 en une année ou sur
non,
les pas, 5 ans?
Non, pas en une année. Il faut travailler sur 5 ans. C'est vraiment important, 20 000 pour un secteur comme la pêche, et c'est des emplois économiques, c'est pas des emplois qui aujourd'hui on devrait avoir une qualité, y compris être durable et pouvoir créer de la valeur. Donc il y a cette capacité aujourd'hui, ce potentiel. Maintenant il faut pouvoir le traduire sur le terrain. C'est le travail sur le réel, en accompagnant des projets au réel. C'est ça l'efficacité qu'il faut pouvoir développer.
Alors l'aquaculture pour vous aujourd'hui, c'est un segment incontournable de développement de la pêche en Algérie?
Oui, c'est un segment incontournable, surtout qu'il y a une dimension dans l'aquaculture qui peut aussi être en synergie avec la pêche, parce que quand vous faites de l'aquaculture marine, vous utilisez aussi les infrastructures portuaires de la pêche, vous utilisez aussi des zones qu'on peut mettre en protection à travers la conchyliculture, et ça permet aussi de l'aménagement de récifs, même si c'est un mot technique, mais en fait c'est pouvoir développer en mer des capacités pour pouvoir mieux reproduire le poisson sauvage. Donc en fait c'est deux choses qui se complètent et qui sont pas automatiquement des choses contradictoires.
Vous avez déclaré qu'il est impératif d'atteindre le professionnalisme avec une main-d'œuvre qualifiée. Cette main-d'œuvre, comment vous allez la voir? Vous allez travailler avec le secteur de la formation professionnelle?
Oui, c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par ce secteur pour pouvoir, bien sûr, répondre aux besoins des différents secteurs. Le secteur de la formation professionnelle a un très, très grand potentiel aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous avons aussi, bien sûr, un certain nombre d'écoles et d'instituts. Mais en créant les synergies, en étant présents sur l'ensemble du territoire, nous pouvons avoir une offre de formation professionnelle et de perfectionnement. Parce qu'il faut recycler aussi, il faut perfectionner aujourd'hui les plus de 50 000 inscrits maritimes dans les différents domaines pour pouvoir avoir une qualité de la ressource humaine qui est vraiment importante, et ça rentre bien sûr dans les priorités du gouvernement.
Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, Monsieur Ferrouri, c'est qu'il y a des contradictions dans les actions qui sont engagées. Vous gérez le secteur de la pêche, mais sur le plan organisationnel, réalisation des infrastructures, quand par exemple les ports de pêche, ils ne dépendent pas de vous. Est-ce que ce n'est pas antinomique quelque part, Monsieur Ferrouri?
Non, je pense que c'est pas antinomique. Il y a aujourd'hui la cohérence, il faut l'avoir bien sûr dans la coordination, il faut l'avoir aussi dans des chaînes de métiers, que chacun fait son métier et je dirais les poissons sont bien gardés. Mais en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir justement enchaîner une professionnalisation, y compris de l'environnement, pas qu'une professionnalisation des professionnels, des pêcheurs et des patrons de pêche. Mais il faut qu'autour d'eux, nous ayons des professionnels de construction de ports, des professionnels de qui gèrent les ports, des professionnels qui sont capables aussi de gérer des services et de la logistique. Maintenant, voilà, on est dans cette économie du 21e siècle.
Monsieur Sidi Ahmed Farouhi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite.
Allez, la suite juste après la pub.
La matinale.
Invité de la rédaction.
Souhil El Hachmi.
Et nous entamons la deuxième partie, Souhil El Hachmi, où on parle de pêche.
Alors, Monsieur Sidi Ahmed Farouhi, beaucoup de questions. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect de la loi aussi. Il est prévu également la réouverture de la pêche au corail d'ici la fin de l'année. C'est l'annonce que vous avez faite et vous en avez largement parlé. Une pêche suspendue depuis 14 ans, il faut le rappeler. Reprendre cette pêche est un meilleur moyen de protéger cette ressource contre le braconnage. Est-ce que vous avez pris toutes vos dispositions?
Nous essayons en tout cas de le faire. C'est une stratégie à double détente. Une première partie qui concerne la réouverture, mais une réouverture raisonnée, progressive et au même moment alternée. Mais de l'autre côté, nous avons aussi corsé dans la loi l'ensemble des sanctions qui sont relatives de manière générale à la pêche illicite et de manière particulière puisque ce nouveau projet de loi comprend des articles spécifiques pour les infractions concernant la pêche au corail. C'est toute l'expérience que nous avons eue, bien sûr, avec les services qui luttent contre ça sur le terrain, qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir, bien sûr, ces dispositions. Donc, à la fois, ouvrir, accompagner, être là, proche, être à proximité des opérateurs, des professionnels, mais de l'autre côté, être rigoureux et en même temps avoir des sanctions qui sont exemplaires pour pouvoir, bien sûr, maîtriser aujourd'hui ces processus.
Mais comment va se faire à l'avenir cette pêche au corail, M. Farouhi?
Alors, dès que la loi sera publiée, les décrets, parce qu'en fait, il y a des décrets qui ont été préparés, des arrêtés, tout le cadre a été préparé en même temps, donc ce qui permet une entrée en place pratiquement simultanée de l'ensemble du dispositif. Donc, nous commencerons à lancer les appels à concurrence pour les adjudications sur des zones qui seront ouvertes pendant 5 ans, fermées pendant 20 ans pour permettre...
En alternance.
En alternance. Il y aura une agence qui se mettra en place. Il y a déjà un noyau qui est en place, pour pouvoir faire le suivi et continuer à améliorer notre connaissance de cette ressource et de son exploitation. Et nous avons aussi prévu à ce que nous encourageons, nous accompagnons l'ensemble des métiers qui sont autour du corail, de la plongée professionnelle jusqu'à la transformation du corail. Nous projetons avec les acteurs que nous puissions monter une filière qui est internalisée, qui est faite avant tout pour les opérateurs nationaux et qui crée de la richesse au niveau local et qu'il a fait circuler.
Mais cette pêche est suspendue depuis 14 ans. Est-ce qu'on a les professionnels pour exercer cette pêche aujourd'hui, M. Farouhi?
Oui, on
14
a.
14 ans, c'est long.
14 ans, c'est long, mais en même temps, nous allons commencer par les aspects formation, qui sont des aspects importants, pour pouvoir très vite habiliter des capacités nationales, parce que nous voulons le faire sur les capacités nationales, la plongée professionnelle. Donc aujourd'hui, nous pensons que ces professionnels sont toujours là et qu'il faut juste pouvoir les accompagner en matière de formation. Donc c'est ça qui est important.
Alors en 2009, il y a une étude globale sur cette ressource qui a déterminé les zones d'exploitation. Est-ce qu'on a une idée sur les réserves de l'Algérie en matière de ressources pour
oui,
cette
on
ressource
a, on a une
corail.
Idée. On a une idée. Et nous savons que le corail est toujours là, qu'il est pratiquement, oui, c'est le rouge qui est important pour nous, qu'il est sur une grande partie du littoral, un peu plus à l'est qu'à l'ouest. Bien sûr, ça suppose aussi un approfondissement continu de notre connaissance, parce qu'il n'est pas réparti de manière homogène dans les différentes profondeurs. Mais là, nous avons une idée précise à travers cette étude du potentiel, et surtout l'étude a bien sûr préconisé un certain nombre de mesures, de précautions dans l'exploitation. Si je prends un exemple, même la période de 5 à 20 ans, c'est l'étude qui la préconise. Donc il y a beaucoup d'autres détails techniques qui existent dans le décret de reprise d'activité de la pêche au coréen. Elles viennent tous ces détails viennent de cette étude qui préconise à la fois la réouverture, mais en même temps avec des régulations techniques qui permettent de préserver cette ressource.
Mais pour être concret, est-ce qu'on a une estimation réelle sur la réserve, M. Ferrouz?
On n'a pas, pour être concret, c'est une ressource qui n'est pas comme les autres types de ressources. On sait qu'elle existe de manière fréquente à partir de 40 mètres, entre 40 et 100 mètres, qu'aujourd'hui, il y a des zones où elle est plus présente que d'autres. On a même des statistiques sur cette fréquence de présence. Donc il y a un certain nombre de données qui sont des données certaines. Il y en a d'autres, nous continuerons bien sûr à travers l'agence à les produire, et nous avons prévu un dispositif de suivi et de contrôle des pêches de corail qui nous permettra de multiplier les bases de sondage des profondeurs.
Mais tout sera contrôlé pour éviter le braconnage?
Tout sera contrôlé. Il y aura deux dispositifs en même temps pendant un moment. Donc, et cette lutte implacable contre le braconnage...
qui, malgré l'interdiction, continue.
Hein. Oui, mais c'est aujourd'hui, justement, la loi apporte de nouveaux instruments qui permettront aux services concernés de pouvoir lutter efficacement contre le braconnage.
Et cette pêche, c'est clair, ça va reprendre avant la fin de l'année?
Avant la fin de l'année, à condition que tout le dispositif soit publié, mais nous faisons tout pour tout préparer en même temps. Et dès que tout sera publié, nous lancerons l'ensemble du dispositif sur le terrain.
Mais la loi sur la pêche et l'aquaculture va passer prochainement à l'APN, à l'Assemblée populaire nationale.
Elle est programmée pour la prochaine session. L'actuelle session.
Dans les prochains jours.
Dans les prochains jours, et je pense que ça sera l'occasion d'ouvrir le débat aussi sur cette question.
Alors, autre question aussi d'actualité par rapport à la question de la pêche au thon. Il y a aujourd'hui certaines revendications. L'Algérie aujourd'hui revendique l'augmentation de son quota de thon rouge fixé à 243 000 tonnes. L'Algérie voudrait l'exploiter dans sa globalité. Est-ce qu'on en a les capacités? Cité déjà
243 tonnes, mais en fait...
Voilà, vous me corrigez, pas 3000, voilà. C'est vrai.
Oui, nous avons la capacité, nous l'avons démontré au cours de ces deux dernières campagnes, puisque c'est au cours de ces deux dernières années que nous avons réalisé nous-mêmes cette pêche au thon.
On l'a
avec
on a
nos
pêché
propres
des 243
armateurs.
Tonnes.
Oui, complètement. Donc, et nous l'avons fait avec nos propres armements, donc ce qui n'avait pas été fait avant. Mais je crois que cet effort d'organisation, de professionnalisation de cette filière permettra crescendo de pouvoir justement, lors de l'augmentation des quotas, qui elle est programmée dans les discussions de l'ICAT, de pouvoir réaliser ce que nous pouvons aller nettement plus loin de ce que nous pêchons aujourd'hui.
Jusqu'à combien?
Nous avons les capacités, nous avons aujourd'hui peut-être plus de 6 à 7 armements donc, qui sont capables de faire ce type de pêche complexe.
Mais combien? Passer de 243 tonnes à combien, M. Ferroufi?
On revendique le retour à notre quota initial, donc qui était plus de 600 tonnes. Donc je pense que aujourd'hui nous avons les moyens largement de le faire et nous avons l'organisation pour pouvoir le faire.
Alors vous avez parlé de 6 à 7 armements, c'est-à-dire les thoniers qui sont capables de pêcher tout ce quota. Mais il y a certains dans un passé récent qui ont bénéficié des aides et des soutiens de l'État justement pour acquérir des thoniers, pour aller pêcher le thon. Mais malheureusement, ils n'ont ni investi ni pêché le thon. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises au niveau de votre département ministériel pour régler cette question définitivement?
Non, en fait,
pour qu'ils remboursent, parce qu'ils avaient été en justice par votre prédécesseur?
Oui, je pense que là, les procédures sont en cours. Il n'y a pas de problème dans ce domaine-là.
Ils ont remboursé?
On est dans des procédures aujourd'hui de judiciaires.
Combien sont restés en justice?
Je ne peux pas vous dire exactement parce qu'en fait, Je crois qu'il y a autour de 30 ou 40... Ça ne concerne pas que, bien sûr, la pêche au thon. Ça concerne aussi un certain nombre d'armateurs dans les autres domaines d'activité. Mais ce qui est important pour nous, en dehors de ces cas, une trentaine ou une quarantaine de cas, donc c'est essentiellement aujourd'hui les 4500 armateurs qui existent par ailleurs. Donc ils ne représentent pas une part importante. Et ce qui est important pour nous, c'est surtout d'accompagner ceux qui sont là, qui travaillent, qui sont présents, pour qu'ils modernisent leur flottille.
Alors, dans votre feuille de route, il est prévu aussi la gestion des pêcheries, l'amélioration de leur gestion. Comment vous allez procéder, M. Farouchi?
Alors, nous avons lancé ce travail déjà depuis quelques mois. Donc, nous pensons que c'est important que nous puissions avoir des instruments qui sont spatiales, y compris délimiter les zones de pêche, délimiter les zones frayères, donc les zones de reproduction du poisson, délimiter les zones où nous allons faire des aménagements pour bien sûr améliorer cette reproduction du poisson sauvage. Nous sommes aujourd'hui en discussion, y compris dans la coopération, pour pouvoir développer l'ensemencement en mer, qui est une nouvelle technologie maîtrisée par un certain nombre de pays, donc notamment de pays asiatiques, qui n'attendent pas que les régulations, mais qui font aussi de l'ensemencement en mer. Toute cette organisation autour de la ressource, de la flottille, et y compris des infrastructures, c'est ça l'aménagement que nous essayons de mettre en place. Ce travail est déjà lancé dans 14 wilayas, notamment maritimes. On a les financements, c'est une étude qui avait déjà été financée dans l'ancien programme quinquennal.
Combien, nous avons fait à combien, à hauteur de combien?
C'est une étude qui est à hauteur de 300 millions de dinars, donc qui est en train d'être réalisée actuellement avec des campagnes en mer entre l'Institut de cartographie, l'Agence spatiale algérienne et aussi, bien sûr, le Centre de recherche développement pour la pêche et l'aquaculture.
Alors, question incontournable, est-ce qu'avec toutes ces dispositions qui sont envisagées aujourd'hui par le gouvernement algérien, on va augmenter l'offre? Le poisson sera beaucoup plus disponible sur nos marchés, M. Farouchi?
Je pense que c'est là, on
en parle, mais on ne le voit pas.
Ça, c'est l'un des objectifs principaux pour lequel nous œuvrons. Maintenant, nous faisons cette projection pour y arriver dans 5 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'on attendra 5 ans, mais en fait, ça va se construire et nous voulons à la fois augmenter l'offre, mais la diversifier et améliorer sa qualité pour le consommateur et pouvoir répondre à la diversité des besoins.
Le poisson sera beaucoup plus accessible?
C'est l'objectif qu'on se donne tous.
Monsieur Sidi Ahmed Farouchi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci.
Bon courage aussi.